Mi-journée.
Bonjour, la Suisse se réveille avec la gueule de bois. 39% de surtaxe sur les produits helvétiques exportés vers les États-Unis. Entrée en vigueur prévue dans une semaine. Comment expliquer ce scénario catastrophe? Quelle réaction de l'économie et du monde politique? On y consacre une large page dans ce journal. Les festivités du 1er août ternies par l'actualité économique. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, se rendra sur la prairie du Grütli. Nous sommes sur place dans quelques minutes. L'émissaire américain est en visite dans la bande de Gaza. Steve Witkoff veut inspecter les sites de distribution d'aide humanitaire. On entendra les précisions de notre correspondante en Israël. Silence, on lit. Est-ce que vous connaissez ce concept? Il existe dans plusieurs régions de Suisse romande. Les élèves et les employés d'une école lisent en même temps chaque jour pendant un quart d'heure. Reportage à Neuchâtel et entretien avec une spécialiste. C'est à écouter dans un quart d'heure. Météo, pas mal de soleil autour du Léman, plus nuageux ailleurs, pas plus de 24 degrés en pleine. On est ensemble pendant une demi-heure. Bienvenue. C'est donc la douche froide pour la Suisse. Pendant des semaines, elle croyait être proche d'un accord sur les droits de douane avec les États-Unis, mais les négociations n'ont pas abouti. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, l'a annoncé hier soir. Et dans la foulée, son homologue américain Donald Trump a publié une nouvelle salve de tarifs pour tous les pays qui ne sont pas parvenus à un accord. Résultat, les exportateurs suisses devront payer 39% de droits de douane pour envoyer leurs produits aux États-Unis. Bonjour Mathilde Farine.
Bonjour.
39%, on ne s'y attendait pas.
C'est peu de le dire, Pauline. Les milieux économiques étaient plutôt optimistes, d'autant plus que ce qui avait filtré ces dernières semaines, c'était des droits de douane à 10% en échange de quelques concessions suisses, donc une situation plus enviable que l'Europe qui sera taxée à 15%. Tous les termes de l'accord ont été négociés, mais visiblement, Donald Trump n'a pas donné son feu vert.
Mais alors Mathilde, qu'est-ce qui a bloqué ?
Difficile de le dire à ce stade, Karine Keller-Souter n'a donné aucune information. Le Conseil fédéral, dans son communiqué, regrette qu'il n'y ait pas eu d'accord, mais ne dit rien de plus sur une éventuelle pierre d'achoppement. On peut faire des hypothèses. Est-ce que le président américain voulait plus de concessions de la Suisse, par exemple, pour écouler la production agricole américaine? C'est en tout cas un désaccord majeur entre les deux pays depuis des années. Est-ce que la pharma, aussi un point sensible, a posé problème? On sait que Donald Trump veut faire baisser les prix des médicaments. Il a d'ailleurs remis un coup de pression aux entreprises du secteur hier soir, ou tout simplement le déficit commercial vis-à-vis de la Suisse, qu'il juge trop élevé. C'est vrai qu'il est important, on parle de plusieurs dizaines de milliards, mais rien à voir avec ceux de la Chine ou de l'Allemagne.
Et alors Mathilde, concrètement, qu'est-ce qui va changer?
À partir du 7 août, les produits seront taxés à 39%. C'est un changement de paradigme, évidemment, puisqu'avant avril, les États-Unis n'appliquaient pratiquement aucun droit de douane. Ça va toucher la plupart des secteurs d'exportation, horlogerie, machine-outils, alimentation, mais a priori, les pharma restent exemptés, pharma qui constitue quand même la moitié de nos exportations vers les États-Unis. Ce qu'on ignore, c'est s'il y a encore des négociations possibles d'ici au 7 août.
Et quelles sont les réactions?
Elles sont consternées, je ne vous le fais pas dire. Économie suisse juge ses droits de douane massifs, injustifiés, c'est un fardeau pour notre pays selon la fêtière. Suisse même craint des dizaines de milliers de pertes d'emplois. Même Interpharma, qui pourtant semble exempté, parle d'un jour noir pour la Suisse.
Mathilde Farine de notre rubrique économique. Un jour noir pour la Suisse, le secteur des machines-outils est l'un des plus touchés. Marc Desraillot est le patron du groupe suisse Micron, qui fournit des systèmes de production de lignes d'assemblage pour composants médicaux. Le groupe, basé à Neuchâtel, exporte 25 à 30% de ses produits aux États-Unis. Cette nouvelle est donc un coup dur.
Ce que ça représente, c'est que notre business case aux États-Unis va être impacté, puisque nos produits vont être beaucoup plus chers pour le client. Et cela vient en plus d'un dollar qui est très faible, donc on a une double charge, les taxes supplémentaires et puis à peu près 10% de compétitivité qui ont été perdues entre le franc suisse et le dollar.
Aujourd'hui, vous êtes inquiet pour l'avenir ?
Inquiet, non pour la survie, parce qu'on a quand même un portfolio de produits et des activités internationales qui nous permettent d'être impactés simplement en une partie, mais les USA étaient un domaine dans lequel on pouvait encore progresser.
Vous en parlez au passé, dans le sens que quelque part vous renoncez aux affaires avec les USA ?
Bon, il est trop tôt pour le dire, parce qu'on ne sait pas quelle sera la situation finale, et puis il ne faut pas prendre de décision, mais c'est clair que si ces barrières restent comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour nous, et donc on va certainement se réorienter sur d'autres marchés.
Il y a un espoir tout de même, justement, que ce chiffre assommant, on peut dire de 39%, soit revu à la baisse. Vous attendez une bonne nouvelle d'ici le 7 août ?
Je ne sais pas trop ce qu'il faut attendre, mais je pense que notre gouvernement et les organisations faîtières vont continuer à se battre. On sait que ces décisions sont prises très souvent sur le coup d'informations pas toujours complètes. On sait qu'il y a du côté américain aussi des gens qui se battent pour négocier, donc on espère que ça va s'améliorer. C'est pour ça qu'on ne prendra pas de décision trop rapide. On va attendre de voir comment ça se décante.
Marc Desrayaud répondait à Déborah Solbank. Les produits suisses taxés donc à 39%. Pour Charles-Henri Monchaud, responsable des investissements à la Banque CIS, ce scénario est encore pire que le scénario du pire. Mais il ne faut pas y voir, selon lui, une punition contre la Suisse.
C'est la douche froide. Il y avait plusieurs scénarios. Le scénario du pire, c'était de rester sur les 31% qui nous avaient été imposés. On s'en souvient, le 2 avril. Et là, 39%, alors c'est en ligne avec les presque 10% d'augmentation qu'ont subi cette nuit un grand nombre de pays. En résumé, tous ceux qui n'avaient pas réussi à trouver un accord, il y a eu une hausse d'à peu près 10%. L'Afrique du Sud est concernée, le Canada, qui a un cas spécial, est aussi concerné. Et donc, il y a nous, on était déjà plutôt maltraités le 2 avril avec les 31%. Et là, une deuxième fois, on est relativement maltraités à 39%. Gros écart avec nos voisins de l'Union européenne. Donc évidemment, ça va avoir des impacts sur notre capacité à exporter. On est déjà plutôt pénalisé par la force du franc. Et en plus de ça, en ce qui concerne un de nos partenaires commerciaux privilégiés qui sont les États-Unis, la facture est relativement salée.
Qu'est-ce qui a pu bloquer quel point ou quel domaine? L'agriculture ou alors la pharma?
Ça reste un mystère, mais une nouvelle fois, j'ai envie de mettre ça dans le contexte global. Donald Trump avait parlé, après le 2 avril, qu'il allait aller relativement vite en termes de négociations. Il avait parlé de 90 deals en 90 jours. Et en fait, si on regarde, il n'y a que 8 pays, dont l'Union européenne, qui ont trouvé à ce jour un arrangement. Donc je pense qu'il y a une nouvelle punition en forme de marge de négociation pour lui, qui a été imposée à de nombreux pays. Avec ses 39%, il a encore plus de marge pour demander certaines garanties à la Suisse avant de potentiellement baisser ses 39% à un taux qui serait plus raisonnable.
Charles-Henri Monchaud, responsable des investissements à la Banque CIS, il répondait ce matin à Alexandra Planinich. Et pour réagir à ces droits de douane, on reçoit dans une minute le conseiller national PLR Laurent Verly. Mais avant ça, Charles-Henri Monchaud le disait, cette surtaxe élevée ne concerne pas que la Suisse. Les produits en provenance du Brésil vont être taxés à 50%. Donald Trump invoque une balance commerciale déficitaire et il dénonce une chasse aux sorcières à l'encontre de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Pour plusieurs spécialistes, ces arguments cachent en réalité l'ambition pour le président américain de faire main basse sur les terres rares du Brésil. Correspondance Jean-Claude Jerez.
Même si la liste des produits concernés par cette hausse des taxes douanières épargne finalement une partie du secteur agricole, de la sidérurgie et de l'aéronautique, plusieurs pans de l'économie brésilienne sont quand même profondément affectés depuis ce matin par la décision de Donald Trump. Le chef d'État américain a refusé toute négociation, de quoi irriter le président Lula, qui a dénoncé un boycott inacceptable et une tentative d'ingérence de Trump dans la justice de son pays, lui qui soutient Jair Bolsonaro, inculpé pour une tentative de coup d'État en 2022. Mais cet argument pourrait dissimuler en réalité un tout autre objectif, celui de mettre la main sur les terres rares dont le Brésil est le deuxième producteur mondial après la Chine. L'hypothèse a pris de l'ampleur depuis l'intérêt exprimé ouvertement par Gabriel Escobar, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Brésil, pour la signature d'accords dans le domaine de ces minéraux stratégiques. Bien qu'Escobar n'ait pas explicitement établi un lien entre les terres rares et la suppression des droits de douane, plusieurs grands patrons brésiliens ont estimé que la question pouvait être pertinente pour le lancement des négociations. Jean-Claude Jerez, RTS, à Rio de Janeiro.
Et bonjour à vous, Laurent Verly.
Bonjour.
On va parler avec vous de ces droits de douane élevés et inattendus pour la Suisse. Vous êtes conseiller national PLR Vaudois, président de la commission de politique extérieure. Cette surtaxe de 39%, c'est le scénario catastrophe?
C'est surtout une évidente déception par rapport à la situation et par rapport aux relations tissées au cours de toutes ces dernières années entre nos deux économies américaines et suisses et entre nos deux pays. Mais voilà, c'est un fait et c'est un fait mauvais pour l'économie, mauvais pour les places de travail en Suisse. Votre interlocuteur précédent le disait, c'est des éléments qui viennent compliquer encore nos exportations et on sait combien la vie économique et les places de travail en Suisse sont liées à l'exportation.
Vous parlez de déception, Laurent Verly, on s'attendait à 31% au plus. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, votre conseillère fédérale, est allée plusieurs fois à Washington avec ses équipes. Visiblement, ça n'a pas suffi.
Alors, tout d'abord, je crois que c'est tout le conseiller fédéral qui s'est mobilisé, en particulier Guy Parmelin avec ses équipes également, responsables de l'économie. Et je crois que c'est la Suisse qui est ici concernée, avec ses différents éléments de l'économie. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a pas de coïncidence avec M. Trump. Il l'a démontré régulièrement. Et le fait qu'il annonce 39% hier pour la Suisse, juste après avoir signé un certain nombre de lettres à des dirigeants d'entreprises pharmaceutiques en vue d'un autre engagement avec un autre délai à fin septembre pour faire baisser le prix des médicaments aux États-Unis n'est certainement pas complètement innocent.
Vous parlez du président américain Donald Trump. Il estime que la balance commerciale est trop favorable à la Suisse. On n'a pas assez pris en compte cet aspect-là.
Je crois qu'il s'agit surtout de rappeler quels sont les éléments à prendre en considération. M. Trump, par définition, et on le sait bien, est un négociateur commercial qui n'a pas l'habitude des négociations diplomatiques, qui ne veut pas garder les traditions de bonnes relations entre pays et voir tous les éléments, mettre tous les éléments sur la table. Il en prend que quelques-uns, ceux qui l'arrangent dans ses discours et dans ses volontés fortes de pression. C'est détestable, mais malheureusement, c'est la réalité et on doit certainement être aussi attentif à cela. Rappelons par exemple un certain nombre d'investissements que la Suisse fait aux États-Unis et qui pourraient par exemple aussi être remis en cause. Ça permettrait peut-être aussi d'avoir un certain nombre de discussions.
Laurent Verly, vous dites que c'est détestable. On a un peu le sentiment d'une toute-puissance de la part de Donald Trump. Vous partagez ?
Il a évidemment un certain nombre d'arguments. N'oublions pas qu'au-delà des pays de l'Union européenne, c'est notre premier partenaire économique. Ça veut dire évidemment un certain nombre de ventes de produits suisses et donc de chiffres d'affaires d'entreprises et donc de places de travail. On ne peut pas juste balayer la force des États-Unis d'un point de vue économique comme si c'était un petit pays ou un pays qui n'avait pas des relations fortes avec le nôtre. Ça, c'est un élément et M. Trump joue beaucoup sur les éléments de force qu'il peut avoir. C'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude dans le domaine de la diplomatie et des relations entre États, d'autant plus qu'en même temps, les États-Unis ne remettent pas en cause, bien au contraire, ils nous remercient pour ce que nous faisons pour eux en Iran, mais ils ne le comptabilisent pas, si vous me permettez l'expression, dans ces éléments purement économiques. Il s'agira sans aucun doute de rappeler un certain nombre de choses et de priorités au cours des prochaines négociations, puisque semble-t-il que le dialogue n'est pas fermé et qu'il y est encore possible de pouvoir continuer à discuter en espérant trouver des bonnes solutions.
On peut vraiment encore négocier, selon vous ?
Je crois que de ce que nous voyons du premier mandat de M. Trump et plus sérieusement encore depuis sa prise de fonction de son deuxième mandat, il y a même des négociations qui se font après avoir finalisé des décisions. Ce qui là aussi est peut-être nouveau et surprenant, mais ça montre qu'on doit s'adapter à ces nouveautés et qu'on doit continuellement remettre en cause des éléments, renforcer le poids de la Suisse et respectivement faire en sorte que tout ce que la Suisse fait avec les États-Unis, pas seulement dans un domaine purement de balance commerciale, soit pris en considération dans un calcul qui permette, nous l'espérons vraiment, de trouver des solutions comme d'autres pays, en particulier nos pays voisins, ont pu trouver.
Un mot encore, Laurent Verly, votre parti, le PLR, a réagi ce matin. Il demande des mesures urgentes pour soutenir les entreprises suisses qui exportent vers les États-Unis. Concrètement, la Confédération, elle peut faire quoi ?
Il y a évidemment un certain nombre de mesures. Hein. D'un point de vue général, il y a évidemment des questions qui sont liées aux conditions cadres, comme on les appelle, à faire en sorte que les réglementations soient respectueuses des collaboratrices et collaborateurs, mais ne soient pas sur-réglementées. Tous ces éléments sont importants. Et puis, il y a un sujet qui est devant nous, c'est les accords bilatéraux avec l'Union européenne. C'est la poursuite de cette merveilleuse mécanique qui nous lie à nos principaux partenaires économiques et à nos pays voisins, avec qui nous partageons des valeurs, avec qui il n'y a jamais eu des menaces ou des prises de décision comme celles que nous connaissons actuellement avec les États-Unis. Et je pense qu'il sera important que les personnes qui croyaient qu'on pourrait faire moins avec l'Union européenne parce qu'on allait faire plus avec les États-Unis comprennent que c'est malheureusement pas du tout la situation et qu'il vaut mieux renforcer, confirmer les bonnes relations qu'on a avec nos pays voisins.
Laurent Verly, conseiller national PLR vaudois, président de la commission de politique extérieure, merci d'avoir commenté cette nouvelle. Les États-Unis qui imposent donc à la Suisse un taux de 39%. Bonne journée et bon 1er août quand même.
Oui, merci beaucoup. Je viens de faire le discours à Kobe auprès de la communauté suisse de la région d'Osaka et qui se portent, eux, de façon volontariste en tout cas. Bon 1er août à tout le monde.
Merci à vous. Et après ce coup de massue, le Conseil fédéral fait part de grands regrets ce matin dans une déclaration écrite. Pas de conférence de presse, mais la présidente de la Confédération s'exprimera peut-être sur le sujet cet après-midi depuis le Grütli à l'occasion de son discours du 1er août. Romain Caruc, vous y êtes. Quelle est l'ambiance sur place à quelques minutes de l'arrivée de Karine Keller-Souter?
Alors, temps maussade ici au Grütli, à l'image de l'humeur du Conseil fédéral. Karine Keller-Souter, visage légèrement crispé, prononce son discours dans un quart d'heure. Elle aurait peut-être dû inviter Donald Trump au mini-golf situé à quelques mètres du bateau qui mène sur la prairie du Grütli. Quand on voit que c'est entre deux parties de golf, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait obtenu des droits de douane limités à 15% pour l'Europe. 15%, ça reste beaucoup pour certains États membres, mais c'est très peu comparé aux 39% infligés à la Suisse.
La Suisse moins bien traitée que l'Europe, le public du Grütli en parle ?
Alors j'ai bien sûr pas parlé à tout le monde, hein. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues ici célébrer l'indépendance de la Suisse sur cette prairie où la légende veut que les premiers confédérés libérés des baillis autrichiens se soient réunis en 1291. Mais ce qui est sûr, c'est que les citoyens avec qui j'ai parlé n'ont de loin pas tous en tête l'actualité de cette nuit et ses droits de douane à 39%. Plusieurs personnes m'ont dit que Trump les fatiguait et qu'elle ne suivait pas tous les rebondissements. À noter que presque personne ne s'attend à ce que Karine Keller-Souter fasse référence à l'actualité dans son discours. Elle n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on célèbre la Suisse, m'ont dit plusieurs citoyens. Les organisateurs assurent en tout cas que la version initiale du discours ne comportait aucune mention à l'Amérique. Reste qu'après un si lourd revers infligé par Trump, rester muet sur le sujet, ça serait un peu ignorer l'éléphant dans la pièce. Surtout quand la pièce, c'est le symbole du patriotisme suisse.
Romain Carupt en direct de la prairie du Grütli pour ce jour de fête nationale. Et les festivités du 1er août ont déjà commencé hier soir. Le vice-président du Conseil fédéral, Guy Parmelin, était dans la commune valaisanne de Fuy. Il a répondu à l'invitation de plusieurs jeunes engagés dans le monde associatif de leur commune. De quoi mettre en valeur le bénévolat. Reportage d'Yannalis Ramsauer.
En général, nous, les Fuyérins, on est des gens assez audacieux.
Cet aplomb, c'est celui de Julien Dorsa, 19 ans. Membre de l'organisation de jeunesse du ski club de Fuy, il chapeaute une quarantaine de bénévoles qui emmènent chaque année des enfants sur les pistes enneigées à moindre coût.
C'est vraiment, je trouve, une chance qu'on a, nous, en tout cas dans notre club, c'est que les gens sont vraiment très investis.
Pour financer ces sorties, depuis 15 ans, une poignée de jeunes de la société de jeunesse organise la fête nationale au centre du village. Une chance pour la présidente de commune, Caroline Ancet-Roduit.
Effectivement, une présidente heureuse avec ses citoyens et citoyennes qui s'engagent pour la collectivité et puis pour faire vivre le village.
Et pour accueillir le conseiller fédéral et vigneron vaudois, Guy Parmelin, c'est forcément à la maison de la petite Arvine qu'a lieu la verrée. Celui qui est président de cette structure viticole, Gérard, est aussi le père de Julien Dorsa.
Oui, je suis très fier de lui. Peut-être qu'il suit un petit peu mes pas dans l'engagement collectif. Avoir des idées, partager nos idées, puis entraîner les autres avec nous.
Et alors, cette petite Arvine, elle est comment, monsieur Parmelin?
Elle se laisse boire. Non, non, mais merci pour l'invitation.
Grand-père, merci à vous d'être venu.
De voir le nombre de sociétés de jeunesse, de gymnastique, les chorales, les fanfares, c'est ce qui maintient aussi la cohésion nationale.
Ce soir-là, près de 4000 personnes auront participé à la fête. Le double de ce qui était attendu. Peut-être grâce à l'audace.
Vive la Suisse, vive le coton du Valais et longue vie à la commune qui nous accueille ce soir. Merci.
Bravo!
C'était le reportage à Fuy de Dianalys Ramsauer. Dans l'actualité internationale, l'émissaire américain Steve Witkoff est en visite dans la bande de Gaza. Il veut inspecter les sites de distribution d'aide humanitaire. Bonjour Sharon Aronovitch.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Tel Aviv. C'est une visite rare dans le territoire palestinien ravagé par la guerre. Quels sont les objectifs de cette visite ?
Alors pour Steve Witkoff, c'est l'occasion de voir de ses propres yeux ses centres de distribution, mais aussi de rencontrer des Gazaouis sur place. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, l'objectif serait de mettre en place, je cite, « un plan pour livrer davantage de nourriture » alors que l'ONU alerte que Gaza est menacée d'une famine généralisée. Steve Witkoff, accompagné de Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, est entré à Rafah ce matin, selon la 12e chaîne israélienne, qui a publié des images où on peut apercevoir de loin une délégation entourée de militaires. Alors, sous la pression internationale, suite aux images terribles de malnutrition à Gaza, Israël autorise en ce moment l'entrée de quelques camions et permet le largage d'aide humanitaire. Plusieurs pays ont choisi de passer par les airs, dont la France, qui doit larguer 40 tonnes à partir d'aujourd'hui.
Mais Sharon, les humanitaires jugent ces largages insuffisants.
Oui, les Nations Unies le rappellent, seule l'ouverture d'un accès terrestre permettra d'acheminer assez de nourriture pour répondre à la crise humanitaire. Les largages sont jugés comme coûteux, dangereux et insuffisants. Et puis bien souvent, ces caisses d'aide ne sont pas correctement distribuées dans un contexte de chaos à Gaza. On voit sur les images qui sortent de l'enclave que les zones d'atterrissage peuvent rapidement devenir le théâtre de violences entre les populations qui sont dans des logiques de survie.
Sharon Aronovitch en direct de Tel Aviv. Et tout autre chose à présent, un mot de sport, de natation avec les mondiaux de Singapour. Le Tessinois Noé Ponti a fait forte impression. Il a signé ce matin le meilleur temps des séries sur 100 mètres papillon, demi-finale prévue en début d'après-midi. Et le Genevois Roman Mityukov est en finale du 200 mètres d'eau cet après-midi aussi. Les mondiaux de natation de Singapour, c'est à suivre en images dès 13h sur RTS2.
Le 12-30, Pauline Rapa.
Allez, maintenant, on s'assied, on se tait, on ouvre un livre. C'est parti pour un quart d'heure de lecture. C'est le concept de silence, on lit, implanté dans plusieurs écoles de Suisse romande. Il a été créé en Turquie avant de s'exporter. Martina Montaldi est bibliothécaire à la bibliothèque de Rolle, spécialiste en information documentaire. Elle a fait son travail de bachelor l'an dernier à Genève sur la pertinence et les enjeux de cette initiative de promotion de la lecture. On l'écoute.
C'est un concept qui a été créé il y a maintes années par une directrice de cette école qui a eu l'idée de proposer aux enfants et en vrai à toutes les personnes de l'école de passer un quart d'heure vraiment d'arrêter de travailler et de se pencher sur la lecture.
Silence on lit, ça existe donc en Suisse romande depuis plusieurs années. Dans le canton de Neuchâtel, le cercle scolaire CESCOL a instauré ce quart d'heure de lecture obligatoire à la rentrée. 2000 élèves sont concernés et après 9 mois, le premier bilan est positif malgré quelques réticences. Pour Ici la Suisse, Romain Bardet nous emmène dans le collège de Longueville à Colombier où sont scolarisés les plus grands. Martina Montaldi, je vous propose qu'on écoute le reportage, on se retrouve juste après.
Parfait.
10h25, la grande pause vient de se terminer. Tout le monde rejoint sa place. Et dans cette classe de 11e, avant d'ouvrir les cahiers d'allemand, chaque élève sort le livre de son choix. C'est parti pour 15 minutes de lecture. Et presque comme par magie, le silence se fait total.
Salut les garçons. Alors toi t'as choisi Thomas Pesquet?
C'est un astronaute que j'aime beaucoup et puis... il décrit un peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis ce serait intéressant de voir un peu l'envers du décor de ce qu'on voit à la télé.
Puis toi, t'as choisi quoi?
C'est une biographie d'un pompier dans ce qu'il a fait dans sa vie.
Puis t'arrives à lire combien de pages là par jour?
Je sais pas, 10-15.
Plusieurs élèves profitent tout de même de ce quart d'heure pour avancer sur une lecture scolaire.
Je lis un livre mystère qu'on a commencé en français.
Après les 15 minutes de lecture, une petite sonnerie retentit. Le cours peut commencer.
Et reprendre vos affaires d'allemand.
Bon, on va profiter de l'exercice d'allemand pour aller poser quelques questions aux élèves. Comment est-ce que toi tu vis cette lecture quotidienne depuis maintenant la rentrée scolaire d'août?
C'est bien, c'est un truc que tout le monde fait ensemble. Tous les profs, tous les directeurs, tous les concierges. Ça fait un truc à partager dans le collège, quoi.
Tu lis que en classe ou tu lis aussi du coup maintenant à la maison?
J'apprends un petit peu à lire à la maison. Puis je commence à prendre du plaisir même un peu à lire à la maison.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi?
D'être plus calme en rentrant de la pause et d'être plus concentré quand la leçon commence réellement après ces 15 minutes.
T'as lu combien de livres depuis le début de l'année?
J'en ai lu 3.
Je préfère quand même lire 15 minutes que de travailler 15 minutes.
Au début, j'aimais pas trop. Enfin, je suis pas un grand lecteur de base.
Et maintenant?
Maintenant, ça va mieux.
Le dossier était normalement fini et corrigé.
Maud Guillou, elle aussi, a rangé son roman. Cette enseignante d'allemand et de français constate une évolution depuis que le projet Silence on lit a démarré dans le collège.
De moins en moins de résistance, de moins en moins de « mais ça sert à quoi ?»« mais pourquoi ?» etc. L'habitude c'est un peu installée.
Vous, ça vous enlève un quart d'heure de leçon quand même à chaque fois. C'est pas un peu problématique?
Alors, parfois oui, mais comme les élèves sont plus calmes, finalement ça nous pénalise pas parce qu'on arrive à peu près à faire la même chose.
Est-ce qu'il y a des collègues qui font un peu de la résistance ou est-ce que tout le monde était assez motivé?
Non, il y a des collègues profs de maths, de sciences, ils étaient très fâchés, certains.
Des réticences que la direction a tenté d'apaiser. Nathalie Cousin est la directrice adjointe du cycle 2.
Alors, je pense qu'au début, on a un peu dû convaincre. Et puis, aujourd'hui, on a vraiment, en tout cas, le sentiment et le retour que c'est OK. Finalement, la lecture, qu'on soit prof de maths, de sciences, de géo, ben, l'enfant, il en a besoin. Aujourd'hui, on a quand même des élèves qui ont des troubles qui font que si on ne comprend pas la consigne, on ne va pas pouvoir la résoudre. Donc, la lecture, elle est importante, en fait, pour toutes les disciplines.
Il reste tout de même quelques enseignants à convaincre, des aménagements à trouver. Mais pour le directeur de cette école, Patrick Villomier, le projet a tout son sens.
Nous, l'objectif, c'est de pouvoir le faire perdurer à très long terme. Travailler sur le plaisir de lire, ben oui, c'est une des missions de l'école. Et puis, si on peut la favoriser aussi par ce biais-là, c'est quelque chose de parfois peut-être plus motivant qu'une lecture suivie. Et le silence, le retour au calme, enfin, je trouve que c'est des éléments qui sont extrêmement précieux dans une société aussi agitée que la nôtre. Ça permet de retrouver aussi des moments de concentration plus importants.
C'était le reportage de Romain Bardet à Neuchâtel avec des élèves intégrés dans le projet Silence, on lit. Martina Montaldi, spécialiste en information documentaire, vous êtes toujours avec nous. Alors vous avez étudié le cas Genevois, si je peux dire. On a entendu quelques réticences, quelques résistances de la part des profs à Neuchâtel. Ça a aussi été le cas à Genève?
C'est vrai que certaines matières se sentent tout de suite concernées, comme par exemple le français, les langues. Certaines autres matières, ça, ils voient, c'est un peu plus difficile de faire le lien avec la lecture parfois, même si beaucoup d'enseignants, en tout cas dans le cadre que j'ai étudié, voyaient très bien les effets positifs de la lecture à tout niveau.
Est-ce que ça peut aussi donner des compétences pour les mathématiques, par exemple?
Exactement. En fait, la lecture, c'est un vecteur de compétences transversales qui peuvent être très importantes dans toutes les matières, rien que par exemple la capacité de synthèse, mais aussi la capacité de se concentration, surtout que le support papier exige une concentration beaucoup plus accrue que des tablettes où tout passe très vite, qui invite au multitâche. Aussi, une autre compétence très importante, tout ce qui peut avoir à l'empathie, parce que c'est vraiment c'est un moment où on peut se mettre dans les baskets, si j'ose dire, de quelqu'un d'autre. Toutes des compétences très 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 importantes.
Et donc pour l'empathie, donc quand même une compétence très importante dans tous les domaines de la vie. Là, c'est les personnages qui nous permettent de développer ça, donc il faut essayer de lire de la fiction.
Alors, c'est vrai que la fiction nous permet vraiment d'avoir accès aux histoires de personnages, mais surtout aussi à tout ce qui est la profondité de la psychologie d'un personnage. Et donc, effectivement, ça nous permet plus que les textes documentaires, nous permet beaucoup plus la fiction d'aller vers les personnages et donc vers l'empathie.
La profondeur de la psychologie des personnages. Martina Montaldi, on l'entend dans le reportage, il faut lire un livre de son choix dans ce concept silence on lit, ça c'est primordial pour donner ou redonner le goût de la lecture.
Tout à fait, parce que effectivement la motivation c'est clé en fait. Toutes les compétences qu'on peut entraîner à travers la lecture, c'est grâce à la motivation et au plaisir que elles s'ancrent plus vite, on va dire. C'est si on le fait à contre-cœur, c'est clair que qu'il y aura des freins et des obstacles qu'on met nous-mêmes.
Et puis on a entendu un élève qui dit que grâce à Silence on lit, il commence même à prendre du plaisir à lire à la maison.
Ah, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. D'autant plus, étant bibliothécaire, c'est vraiment, ça fait plaisir parce que justement, je pense que quand le pas est franchi, quand on a vraiment compris qu'est-ce que ça peut nous donner, pas que au niveau compétences, mais au niveau aussi de plaisir, d'intérêt à aller dans ces histoires par le biais du papier, on a vraiment découvert un monde.
Martina Montaldi, dans votre travail de bachelor, vous constatez qu'on assiste chez les jeunes à une baisse d'intérêt pour la lecture. Vous citez ce chiffre, 1 jeune sur 5 lit pour son plaisir. Ça paraît très très peu. Est-ce que c'est problématique?
La lecture, c'est vraiment le vecteur qui permet de vraiment acquérir ses compétences. Après, les séries TV, les jeux vidéo, tout d'autres médiums qui ont des histoires le permettent aussi. Mais le texte, tout ce qui est imprimé en plus, permet vraiment au cerveau d'aller à son rythme et d'acquérir ses compétences fondamentales.
Et peut-être encore un mot, dans votre travail, vous pointez un manque d'adhésion de certains élèves. Il n'y a pas assez d'informations sur ce concept silence on lit?
Alors, je pense que l'information est aussi au niveau peut-être des bienfaits vraiment scientifiquement prouvés qu'on peut tirer de la lecture. Parce que je pense qu'étant séparé vraiment de cette habitude, de ce médium, parfois on a plus l'impression qu'en regardant des vidéos, des séries TV, on a plus l'impression de se mettre dans des histoires, ça nous donne plus de plaisir immédiat, mais c'est un autre médium. Quand on doit vraiment se mettre à notre rythme, pas à pas, dans une histoire, c'est vraiment autre chose. Et j'ai espoir qu'à travers plusieurs types d'initiatives qui peuvent être créées, plusieurs jeunes auront ce plaisir-là, de se mettre vraiment dans un livre.
C'était Martina Montaldi, bibliothécaire à Rolles, spécialiste en information documentaire. Cet entretien a été diffusé pour la première fois au mois de mai. Et la météo de ce vendredi 1er août, assez ensoleillé du Léman au Valais, seulement en partie ensoleillé dans les autres régions de plaine. En montagne, plus de nuages avec des averses cet après-midi qui peuvent prendre un caractère orageux. Il fait jusqu'à 24 degrés en plaine, 0 degré à 3400 mètres.
Bonjour, c'est Sylvia Nazar. Je vous accueille dans la Dolce Vita du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30 sur Espace 2. Chaque émission est comme un départ en vacances, un voyage éclectique qui enchaîne, qui fusionne le jazz, le folk, des musiques de films, de grands standards et aussi des traditions d'ici et d'ailleurs. Le tout en pleine harmonie avec l'univers musical classique. La Dolce Vita est une émission de la RTBF à découvrir durant tout l'été sur RTS Espace 2.
La vie à peu près. Florence Grivel.
L'autrice française Brigitte Giraud est avec nous cette semaine dans La vie à peu près. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, soyez les bienvenus. En 2022, Brigitte Giraud reçoit le Goncourt pour son livre « Vivre vite » qui raconte les circonstances qui ont mené à la mort accidentelle de son mari, Claude Giraud, le 22 juin 1999 à Lyon. Elle avait publié il y a 20 ans le récit « À présent » sur cette tragique disparition. À propos de « Vivre vite », on peut lire « Brigitte Giraud détaille avec beaucoup de recul tous les événements qui se sont succédés pour aboutir à l'accident de moto de son mari. » C'est au guidon d'une moto très puissante, dangereuse et très délicate à piloter, une Honda 900 CBR, que l'irréparable se produit. L'écrivaine essaye de trouver un sens aux éléments du destin qui s'enchaînent. Elle déroule tous les « et si il n'avait pas acheté cette maison ?»« Et s'il n'avait pas pris cette moto, qui n'était pas à lui ?»« Et si elle n'avait pas été à Paris ce soir-là » Elle fait aussi revivre avec beaucoup d'émotion son compagnon et l'histoire qu'ils ont vécue. Cette émotion grandit au fil du roman, alors que l'inéluctable approche. Le Goncourt, ainsi se nomme ce dernier épisode, qui est au bon soin de Sylvie Tanette.
Bonjour Brigitte Giraud.
Bonjour.
Alors pour cette dernière émission, après avoir parlé de votre enfance, de votre écriture, de votre sens du partage, j'aimerais qu'on en arrive à un événement important, j'imagine, dans une vie d'écrivaine. C'est le prix Goncourt qui vous est attribué en 2022 pour Vivre vite, qui 20 ans plus tard revient sur cet événement dont on a parlé, le décès de votre compagnon Claude. Pourquoi vous avez réécrit sur cet événement à ce moment-là?
Alors, Vivre vite, c'est un récit qui revient 20 ans après sur l'accident de moto qui a coûté la vie à mon compagnon. Et en fait, comme il s'agissait d'un accident qui n'avait pas de cause apparente, qui n'avait jamais été élucidé, mon petit cerveau n'en avait jamais fini de questionner les différentes circonstances. Le comment, du pourquoi. Et ce livre, je savais que je devais l'écrire, mais je le repoussais, je le reportais d'année en année, parce que c'est un livre qui me faisait peur. Parce qu'il fallait qu'enfin j'aille questionner véritablement toutes ces circonstances. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée à ce moment-là avec un rapport de police qui dit le jour, l'heure, le lieu, l'angle de rue et qui n'apporte aucun élément et qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Donc ça faisait une vingtaine d'années que je menais une enquête, comment dire, c'est pas que je menais l'enquête, mais mon cerveau n'arrêtait pas de galoper et essayait de comprendre tout un tas de choses, y compris pourquoi et comment les semaines et même les mois qui ont précédé l'accident, il y avait eu tout un tas de coïncidences extrêmement troublantes, tout un tas de hasards assez inquiétants. C'est-à-dire que il y avait notamment l'achat d'une maison qu'on n'aurait jamais dû acheter parce que c'est une maison qui n'était pas à vendre, la première raison. Et c'était une vieille maison dans le quartier où nous habitions, dans la ville de Caluire, près de Lyon. Une maison devant laquelle je passais quasiment tous les jours et dont je m'étais entichée en fait. Et le destin, si on peut appeler ça comme ça, tout me disait qu'il fallait pas acheter cette maison parce qu'elle n'était pas à vendre, parce que l'histoire qui s'était déroulée, Caluire, c'est la ville où Jean Moulin a été arrêté, donc cette maison avait un lien avec la résistance, avait un lien. Et là, j'aurais dû résister justement, j'aurais dû ne jamais. Et j'ai fait tout le contraire de ce qu'il aurait fallu faire, et ça s'appelle tordre le destin. Et je nous ai rendu la vie totalement impossible pour finir en faisant des doubles sauts périurière, pour finir par ce que cette maison, ce que le vendeur accepte de vendre, enfin quelque chose qui après coup me paraît extrêmement suspect, extrêmement inquiétant, extrêmement dérangeant. Et il a fallu que j'écrive ce livre pour d'une part mettre tout cela au clair, l'histoire de la maison, mais l'histoire de tout un tas d'autres choses, des coups de fil que certains auraient dû passer et n'ont pas passé, des histoires de garage occupés, inoccupés, l'histoire d'une moto qui n'aurait pas dû être commercialisée, une moto fabriquée au Japon, interdite au Japon parce que trop dangereuse, réservée à l'exportation vers l'Europe, sur laquelle roulait Claude ce jour-là, mais une moto qui n'était pas la sienne, qui était celle de mon frère. Cette moto n'aurait jamais dû être chez nous. Enfin, une usine à gaz sidérante qui fait que, semaine après semaine, les circonstances qui ont permis que l'accident ait lieu, les circonstances, tout a convergé vers ce point de rupture et de chute.
Mais oui, parce que ce livre, il a une forme dont beaucoup d'entre nous se souviennent, très particulière, c'est le livre des si. C'est-à-dire, vous reprenez tous ces éléments dont vous venez de nous parler, et si la moto ne lui avait pas été prêtée, et si on n'avait pas habité à cet endroit-là, si j'étais pas à Paris ce soir-là, voilà, tout, et vous reprenez ensuite dans les chapitres suivants tous les si pour les explorer d'une certaine manière. Cette structure, vous y avez pensé tout de suite ?
J'ai pas pensé tout de suite, mais je savais que rien ne s'était passé comme prévu, puisque moi je n'aurais pas dû aller à Paris ce jour-là. Cette moto n'aurait jamais dû arriver dans notre garage, puisque nous n'aurions pas dû avoir cette maison, donc nous n'aurions pas dû avoir un garage. Nous n'aurions pas dû avoir les clés de la maison à l'avance, puisque c'était avant la vente chez le notaire. Enfin, comme je le disais, tout était assez fou, et c'est vraiment un questionnement autour du destin, autour du hasard, autour du déterminisme. Qu'est-ce qui fait que chacun de nos choix va déboucher sur un autre choix, qui lui-même va déboucher sur un autre choix, comme un arbre généalogique mis à l'envers, qui fait comme un entonnoir. Et en fait, j'arrivais pas à écrire le livre parce que j'arrivais pas à trouver la structure, j'arrivais pas à trouver la porte d'entrée, ben c'est le cas de le dire, hein, puisqu'on parle d'une maison, et puis j'arrivais pas à m'autoriser à écrire ce livre. Je voyais ce livre comme un puzzle, avec tout un tas de pièces. Alors, dans le livre, j'ai gardé 22 pièces de puzzle, enfin 23 pièces du puzzle, plus exactement, 22 plus une, tout en sachant que si une seule des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, l'accident ne peut pas avoir lieu. Alors, j'ai eu l'idée de cette succession de si et de cette succession de rapports de cause à effet en voyant le travail de deux plasticiens qui s'appelle Fischli et Weiss. Ce sont deux Suisses. L'un des deux est mort il y a 2 ou 3 ans. Alors, Fischli et Weiss, c'est un duo de plasticiens qui ont mis en scène dans leur atelier une suite d'objets qui s'animent les uns à la suite des autres. Alors ça se trouve sur Dailymotion, non, sur YouTube, je crois. Ça s'appelle Der Lauf der Dingen, c'est-à-dire le cours des choses. Et par exemple, ils peuvent faire rouler une petite bille et la bille va tomber dans un bol d'eau, l'eau va déborder et va avancer dans une rigole. Cette rigole va mettre en route une petite turbine qui elle-même va alimenter une ficelle qui va, voilà. Ça, c'est le cours des choses. Et quand j'ai compris cette mécanique-là, là, j'ai eu la structure possible du livre. Mais je ne savais pas si je devais écrire de façon chronologique, c'est-à-dire une chose qui en emmène une autre, parce qu'il y avait un faisceau, tout un faisceau de choses qui en emmenaient une autre. Il y avait tout un tas d'engrenages. Et pour le coup, c'est vraiment un engrenage terrible. Et quand j'ai eu la structure possible, l'ensemble du livre a pu se dérouler relativement, enfin facilement non, c'était pas facile, mais relativement clairement.
Et on a l'impression, quand on lit ce livre et quand on relit à présent, donc qui a presque 20 ans, on a l'impression que quelque chose se refait. Parce qu'à présent, il y avait la question « qu'est-ce qu'il a foutu ?» Je crois plusieurs fois qu'il revenait « mais qu'est-ce qu'il a foutu ?» Et comme si quelque chose était resté ouvert jusqu'à maintenant, et là, ça referme peut-être un chapitre de votre vie ou de votre écriture, je ne sais pas.
Ben disons que, comme je ne sais pas en effet ce qui s'est passé, puisqu'il s'agit d'un démarrage à un feu rouge, un jour de juin en plein après-midi, après le travail, en fin d'après-midi, il n'y a pas de tierce véhicule, il n'y a pas de, donc la question reste ouverte. Est-ce qu'il s'agit d'une piqûre de guêpe? Est-ce qu'il s'agit d'un aveuglement? Est-ce qu'il s'agit d'une plaque d'huile? Est-ce que c'est une accélération trop vive? Est-ce que c'est le fameux moteur de cette moto qui est un moteur qui en effet aurait dû être interdit, mais réservé à l'exportation vers l'Europe? Ce qui est quand même, je parle aussi d'un scandale, lié au libéralisme. C'est aussi un livre qui va chercher cette chose politique, qui est que à quel prix, à quoi on est prêt, à quel sacrifice on est prêt pour faire du profit. Bon, ben ça, on a des exemples, hélas, tous les jours. Donc c'est un livre qui va croiser à la fois une part intime, une part collective, une part sociologique, puisqu'il s'agit de l'extrême fin du XXe siècle, avant le grand saut dans le tout numérique. Ça veut dire que c'est une époque très particulière, à un moment où on n'a pas de téléphone portable, où on ne peut pas passer un SMS pour dire à l'autre quelque chose qui aurait été crucial parce qu'il s'agit de téléphoner. À l'époque, c'était plus compliqué de téléphoner quand on n'était pas chez soi, parce que le soir, il y avait des zones de tarification, il fallait attendre 21h30. Enfin, tout, voilà, donc je mets en scène tout ça. Et ce livre, écrit 20 ans après l'accident, je me dis aujourd'hui qu'il a peut-être le mérite de borner l'obsession, de mettre un terme à l'obsession, c'est-à-dire d'arrêter, de faire en sorte que mon cerveau continue de galoper pour se dire « et peut-être que, et alors si, il aurait fallu penser à, mais alors peut-être, voilà ». L'écriture vient borner ce qui aurait pu devenir une forme de folie. Ça permet de mettre de l'ordre. Mais ce qui était l'enjeu de ce livre, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas 3000 pages. C'est-à-dire de me borner à 23 chapitres. Parce qu'évidemment, la réalité est bien plus foisonnante, et bien plus foutraque, et bien plus délirante, et bien plus inconvenante que ce que j'ai gardé, qui est déjà assez dérangeant. Et en fait, le livre peut se déclencher ou s'amorcer au moment où, parce qu'en fait, il y a une chronologie assez folle, nous devons emménager dans cette maison dont j'ai parlé tout à l'heure, maison dont je m'entiche, que nous allons finir par acheter, mais la chronologie dit signature de l'acte de vente le lundi, je crois, accident le mardi, emménagement dans la maison, mon petit garçon et moi, le samedi, et obsèques le mardi suivant. Ce qui veut dire que c'est une chronologie qui rend fou. Enfin, qui est totalement foutraque, totalement, c'est impossible, c'est insupportable. Et donc, à partir de cette chronologie, il faut démonter la mécanique, remonter le fil, et puis se réapproprier son existence, c'est-à-dire se réapproprier une vie qu'on n'a pas choisi de vivre. Enfin, en tout cas, c'est pas cette vie-là que j'avais prévu de vivre. Et donc, comment on se réapproprie par l'écriture quelque chose qu'on n'a pas choisi? Le premier chapitre est possible parce que donc j'ai emménagé dans cette maison avec mon fils en 1999. J'ai fini par la rénover à ma façon, autrement, de vivre autrement, de faire autre chose. Je me suis battue avec et contre cette maison pendant les premières années. Puis après, j'ai fini par l'apprivoiser, par apprivoiser les lieux, par faire que le bout de terrain en gravier à l'extérieur devienne un jardin, mettre un peu de beauté dans tout ça. Il faut beaucoup de temps. Et puis, il y a un moment où, 20 ans après, les promoteurs se mettent à cerner le quartier d'une façon extrêmement inhumaine. Donc, on est à nouveau face à un libéralisme débridé et vraiment agressif. Et là, je comprends que je vais devoir quitter cette maison parce que un immeuble ou plusieurs petits immeubles vont se construire et vont masquer la lumière et vont ça va être dramatique. Et là, ce déséquilibre absolu qui est d'être projeté dans l'idée de devoir à nouveau partir en quête d'un autre lieu, encore quelque chose qui n'est pas choisi, recommencer à prendre son petit bagage, est quelque chose qui me déséquilibre fortement. Et puis l'idée de quitter une maison, et notamment cette maison, ça veut dire qu'il faut être capable de la vider. Il faut être capable d'inventorier donc chaque objet qui est dans cette maison, y compris les affaires et les instruments de musique de Claude. Et là, ça crée le mouvement nécessaire, comme un mouvement de survie, qui va créer le premier chapitre. Si je n'avais pas acheté cette maison. Et là, une fois que c'est parti, je peux dérouler à partir de l'achat de cette maison.
Et alors, vous l'avez écrit, vous l'avez publié chez Flammarion, ce livre, parce que, ben, on l'a dit, Jean-Marc Roberts, votre éditeur chez Stock étant décédé, vous êtes ensuite parti chez Flammarion, où votre éditrice est Alix Penant. Alors justement, qu'est-ce que ça fait de passer d'un éditeur à un autre? Est-ce que vous travaillez autrement? Est-ce que ce livre, il a été possible aussi grâce à cette maison d'édition? Je sais pas.
Alors, j'avais publié deux autres livres chez Flammarion. Je suis arrivée chez Flammarion avec Un loup pour l'homme, le livre dans lequel je parle de la guerre d'Algérie et de mon père. Après, chez Flammarion, j'ai publié Jour de courage, qui est ce livre qui met en scène ce jeune homme qui va faire un exposé en cours d'histoire et qui va parler des premiers autodafés nazis et de la comment on manipule un peuple et comment Hitler arrive à être élu et comment ce jeune garçon va dire bien plus que cette montée du nazisme, va dire aussi des choses intimes sur lui et son lien à l'homosexualité, en fait, mais sans jamais parler de lui. Donc ça, c'est Jour de courage, le deuxième livre que je publie chez Flammarion. Puis après, il y a le troisième, qui est Vivre vite. Donc en fait, quand je suis arrivée chez Flammarion, mais oui, c'était après la mort de Jean-Marc Roberts. Après la mort de Jean-Marc Roberts, j'ai fait un autre livre chez Stock qui s'appelle Nous serons des héros, qui parle d'immigration portugaise, c'est-à-dire après la dernière dictature d'Europe, enfin en tout cas à l'époque. La dictature de Salazar, c'est l'histoire d'un garçon dont le père est mort quand il a 8 ans. Mais je déplace ça très 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 loin. J'ai besoin de déplacer ça très 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 loin pour essayer de regarder de très près ce qu'est un petit garçon dont le père est mort quand il a 8 ans, qui va devoir vivre avec seulement sa mère et qui va devoir être éjecté de sa vie parce que son père est mort dans les geôles de Salazar. Voilà. Et ça me permet de parler de ce dont j'ai envie de parler et de regarder, d'aborder le deuil sous une autre façon. Quasiment tous mes livres parlent de déflagration ou de rupture ou de déplacement ou d'exil ou de voilà, deuil au sens large, faire le deuil de qui on était, faire le deuil de quand on est adolescent, faire le deuil de l'enfance. La vie est un deuil perpétuel et une histoire de métamorphose perpétuelle, ce qui est passionnant et il faut être costaud quand même pour affronter l'existence. Et donc, chez Flammarion, en effet, c'est Alix Penant qui était mon éditrice depuis 3 livres et qui accompagne désormais mon travail. Voilà, et le prix a eu lieu au moment de, enfin, pour la parution de Vivre vite.
Quel souvenir vous avez de ce Goncourt qui est... Moi, j'ai des souvenirs quand même assez violents. Je ne sais pas si on peut rappeler en deux mots. Donc, vous avez le Goncourt, oui, mais vous êtes en concurrence, on va dire, avec un auteur garçon qui est Julien Audin-Empoli. Et il faut 14 tours de scrutin et vous avez le Goncourt. Et on voit, il me semble, un déferlement de misogynie qui saisit le Quartier Latin. C'est un de ces épisodes pas toujours très glorieux comme on en voit de temps en temps dans les rentrées littéraires. Je ne sais pas si on peut revenir là-dessus, comment vous l'avez vécu, quel sentiment vous avez aujourd'hui là-dessus.
Moi, je pense qu'il y a, outre la possible misogynie, j'apprends à ce moment-là que je suis la 13e femme à avoir le prix Goncourt en plus d'un siècle, en 120 ans, ce qui est quand même extraordinairement éclairant. Il se trouve que je vis en province, il se trouve que je suis d'une classe sociale modeste, il se trouve que je suis plutôt quelqu'un de gauche. Voilà, ce qui n'est pas forcément le tiercé ou le quartet gagnant. Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'un livre obtienne un prix alors que, a priori, il n'avait pas forcément les bonnes cartes pour obtenir ce prix. Enfin, je ne parle pas du livre, mais je parle du contexte plus global, ce qu'on vient d'évoquer. Et puis après, il y a autre chose. Il y a un jury littéraire qui, en principe, est censé être solidaire. C'est-à-dire qu'a priori, les membres du jury ne sont pas censés dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le vote. Parce qu'il y a des personnes, membres du jury Goncourt, qui ont dit qu'ils n'avaient pas voté pour. Ceci étant dit, l'année qui a suivi, quand Jean-Baptiste Andréa a reçu le prix Goncourt, il y a eu 14 tours de scrutin de la même façon, et la double voix du président Didier Decoin de la même façon, et
c'est passé, on n'en a pas parlé.
Et c'est passé, après on a dit que le livre de... Enfin bon, bref. C'est pas sur le coup que ça a été violent, parce que sur le coup, on est dans l'action. Voilà, moi j'étais venue, comme je vis toujours à Lyon, j'étais venue chez mon éditeur pour être là à 13h. On savait qu'il y avait une possibilité. Quand on est sur la shortlist, on sait qu'il y a une possibilité. Voilà. Non, quand le prix est, quand on est chez son éditeur et que le coup de fil arrive et que ensuite c'est action, 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 c'est-à-dire ensuite on fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on est avec son attaché de presse, son éditrice, et là on va, c'est un parcours extrêmement balisé, donc telle heure, tel endroit, tel déjeuner, telle interview, telle émission, telle prise de parole, et tout est absolument balisé pendant les jours qui suivent. Du point de vue des médias, auxquels s'ajoute ce qui était déjà prévu en amont, c'est-à-dire les rencontres dans les librairies, les rencontres dans les festivals. Donc tout va se superposer, ça veut dire que ce sont des journées qui vont être extrêmement chargées, avec parfois jusqu'à 6 prises de parole, avec y compris des visios avec l'étranger, enfin des choses qui sont à échelle humaine, parfois très éprouvantes. Et ce qui était, on va dire, plus délicat pour moi, c'est qu'il s'agit d'un livre... qui est quand même un livre dans lequel je dis je et que ce je est moi. C'est pas un roman qui permet de s'abriter derrière des personnages et de ne pas se mettre en jeu. Il s'agit de la mort d'un homme, il s'agit de la déflagration de mon existence. C'est un livre qui met en scène aussi des personnes qui existent, d'amis ou de familles proches. Donc ça nécessite des précautions encore plus fines. Il s'agit de parler de littérature, de ne pas parler de soi, de ne pas dévoiler certaines choses qui ne sont pas dans le livre. Ça veut dire qu'il faut être d'une vigilance absolue. Prendre la parole, c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère écrire. Je préfère être dans le silence de l'écriture et prendre le temps pour choisir les mots que j'assemble les uns avec les autres. La parole, c'est quelque chose qui peut vous piéger. Puis ce qui est compliqué, c'est le rapport aussi. Ce qui est télévision, l'image, à un moment, vous avez pas une seconde pour... C'est des choses aussi bêtes que ça. Voilà. Donc il faut vivre toutes ces couches qui superposent en même temps. Ça laisse peu de place à qui on est habituellement. Voilà, il faut être placé, il faut être posé, calme, et cette chose-là dure assez longtemps. parce qu'après il y a les traductions, enfin il y a d'abord une année avec beaucoup de rencontres, dont beaucoup de librairies, tout ce qui était calé à l'avance et puis tout ce qui s'ajoute et les invitations qui se superposent, ce qui est très évidemment très agréable, mais il faut être quand même très en forme. Et puis la deuxième année, c'est vraiment les voyages à l'étranger, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de traductions.
Et qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça apporte maintenant, avec plusieurs années maintenant ?
Aujourd'hui, je me rends compte que ça fait 3 ans que je n'ai pas écrit, parce que j'ai rendu mon manuscrit à mon éditrice en janvier 2022. Plus de 3 ans, même en décembre 2021. Voilà, donc ça veut dire que le retour à l'écriture... Alors 3 ans, c'est pas forcément beaucoup. Ça m'était déjà arrivé, notamment après à présent. Il n'y a pas d'urgence. J'ai parfois pensé que Vivre vite pouvait être mon dernier livre, parce que c'était le livre vers lequel je tendais. C'est mon livre le plus important, avec... Un loup pour l'homme, ce livre qui parle de la guerre d'Algérie, c'est vraiment mes deux livres les plus importants, qui mettent en jeu énormément d'aspects différents de l'existence, hein, comme on le disait, à la fois le collectif, à la fois l'intime, à la fois le sociologique, le politique, l'historique. Donc il faut réussir à organiser tout cela, puis pouvoir en parler. Revenir à l'écriture, oui. Comme je le disais tout à l'heure, ou alors peut-être dans une autre émission, le monde dans lequel nous vivons en ce moment ne me permet pas d'être dans un exercice d'écriture qui ne me semble pas dérisoire. J'ai toujours considéré l'écriture comme quelque chose, chaque livre est nécessaire, pas forcément urgent, mais nécessaire. Là, la nécessité viendrait de plusieurs endroits à la fois. Et donc, il faut que je prenne le temps aussi d'organiser ce rapport au monde, mon rapport au monde, qui n'a de cesse de basculer, parce que là, on est face à des bascules qui sont permanentes, qui sont successives, qui sont sur des fronts différents, et qui font que le cerveau est quelque chose qui est tellement sollicité. Moi, j'ai besoin de tout comprendre de ce qui se passe. Donc, ça veut dire que je passe énormément de temps à lire la presse, à écouter beaucoup de choses. J'ai besoin de comprendre et ça prend quasiment tout mon temps. Donc j'ai commencé, il y a un mouvement d'écriture qui est en cours, mais faut que je sois sûre que l'énergie est la bonne, que le ton avec lequel on écrit, le rythme dans lequel on écrit est le bon. Et je crois que je suis trop à vif en ce moment pour... peut-être qu'il faut attendre que quelque chose s'apaise un peu et... Parce qu'un long cours, si c'est un roman, si c'est une écriture au long cours, je pense que le fait d'être trop à vif n'est pas forcément la meilleure amie de la phrase et de la longue distance.
Bon, on espère vous lire quand même. Brigitte Giraud, merci pour ces 5 rencontres. Donc on va se quitter sur... Dites-moi.
Alors on va se quitter sur un morceau de Death in Vegas qui s'appelle Dirge. Alors, Dirge, c'est un morceau de musique qui apparaît dans Vivre vite. Et c'est vrai que dans Vivre vite, il y a toute une bande son aussi. Parce que l'homme dont je parle, Claude, était à la fois musicien et critique musical. Voilà, donc Dirge fait partie de ces morceaux qui reviennent de façon récurrente.
Merci. Yeah.
Death in Vegas, Dirge, une des musiques qui fait partie de la bande-son du livre Vivre vite de Brigitte Giraud, dont nous avons suivi tout au long de cette semaine La vie à peu près. C'est une proposition de Sylvie Tanette. La vie à peu près, c'est une coproduction en Daniel Éveillé et Florence Grivel, assistée d'Audrey Zano, réalisée par Sandro Lichy. Les 5 épisodes sont à réécouter en tout temps via l'app Play RTS ou par le podcast de La vie à peu près. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Excellent week-end à vous sur RTS Espace 2. Il est 14h.